Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, Israël, une question de politique intérieure. Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant de France 2 à Jérusalem pendant plus de 30 ans. Vous venez de publier aux éditions du Seuil « Les Juifs de France entre République et sionisme ». C'est la France ici et tout le monde connaît la règle. Emmanuel Macron a vu rouge mercredi alors qu'il tentait de visiter l'église Sainte-Anne dans la vieille ville de Jérusalem au premier jour de sa visite en Israël. L'église fait partie du domaine national français. C'est la France ici, a dit le chef de l'État aux agents de sécurité qui en interdisait l'entrée. Alors au-delà de l'anecdote, cette péripétie a une valeur symbolique. Se rendre en Israël pour un président français n'est pas tout à fait une visite d'État comme les autres. Il n'y est pas question seulement de diplomatie, ni de cette règle tacite qui veut qu'on n'aborde pas les questions de politique intérieure depuis l'étranger. En Terre Sainte, la parole présidentielle s'adresse aussi à une partie de la communauté nationale, celle de confession ou de culture juive. Emmanuel Macron n'aura pas dérogé à cet usage. Comme ses prédécesseurs, en tout cas depuis François Mitterrand, le chef de l'État a renouvelé l'engagement de la France à lutter contre l'antisémitisme au moment où une étude de l'IFOP révèle qu'un tiers des Juifs vivant en France se sentent menacés. C'est à eux que le président de la République s'adressait en évoquant son souhait de voir juger le meurtrier de Sarah Halimi. À eux encore qu'était destinée cette phrase « L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme ». Alors Israël, une question de politique intérieure, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Charles Anderlin. L'actualité, c'est donc la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Est-ce qu'il aurait été envisageable pour le chef de l'État de terminer son quinquennat sans se rendre dans ce pays ?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, à partir du moment où il y avait cette invitation à venir à Jérusalem pour participer à ce forum de Yad Vashem, le président français ne pouvait pas refuser. Il aurait été très mal compris par la communauté juive. Donc il devait y aller, il devait faire ses gestes. Il s'agissait de répondre à une véritable demande de la communauté et des institutions juives qui se disent très inquiètes de la situation, de la résurgence de l'antisémitisme.
Alors ces gestes, des gestes notamment spectaculaires, hein, lorsqu'il va par exemple se recueillir devant le mur des Lamentations, devant le mémorial de la déportation des Juifs de France, il y a des phrases fortes que j'ai évoquées, et puis évidemment cette séquence.
We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm.
Alors il y a évidemment un rapprochement immédiat qui a été fait un peu partout avec la séquence de 1996. Jacques Chirac au même endroit qui tient des propos finalement assez similaires.
Qui a été filmé par les soins du bureau de Jérusalem que je dirigeais à l'époque. C'était d'ailleurs une séquence que j'ai trouvée assez amusante parce que le caméraman israélien du bureau était devant la délégation de Chirac et tout à coup il voit Chirac qui regarde le micro, regarde la caméra et regarde le caméraman dans les yeux et le caméraman comprend, je dois filmer. Et à ce moment-là, Chirac sort sa phrase.
Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser l'analogie, Charles Anderlin, entre Emmanuel Macron et Jacques Chirac? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une continuité, des similitudes entre la diplomatie chiracienne et la diplomatie macroniste sur la question du rapport de la France à Israël?
Je ne crois pas. Chirac était quelqu'un qui connaissait le processus de négociation jusqu'à la moindre virgule. Après l'échec de Camp David en juillet 2000, le début de l'intifada, Chirac avait invité le premier ministre israélien Ehud Barak et Yasser Arafat à Paris, des négociations. Ça s'était pas très bien passé et Barak, les Israéliens, accusaient Chirac d'avoir été anti-israélien et pro-Arafat et la communauté juive l'avait très mal pris. Cela dit, Chirac comprenait vraiment le processus de paix. Arafat l'appelait Dr Chirac pour éviter le président palestinien. Je crois que Emmanuel Macron, qui répète aujourd'hui constamment la solution à deux États, n'est pas au courant de tous les petits détails et de la situation sur le terrain.
Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, Charles Anderlin, au contraire de ses prédécesseurs, le nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron donc, n'a jamais entretenu de lien particulier avec la communauté juive et il n'a nullement l'intention de s'investir dans l'affaire du Proche-Orient. La suite, Le CRIF et le consistoire ne cessent de répéter qu'Israël est l'état du peuple juif et que les juifs français sont sionistes. Emmanuel Macron considère donc Benjamin Netanyahou comme le représentant des juifs vivant en France. Et ça m'a fait sursauter quand même cette phrase.
Et il a invité le Premier ministre israélien à participer, à assister à la commémoration de la rafle du Veldiv, alors qu'il s'agissait quand même d'un événement français. La trahison des administrations françaises à l'époque de Vichy, la trahison des juifs. Oui, c'est ce que je pense, c'est ce que des sources proches du président Macron m'ont dit. D'ailleurs, je crois que ce sentiment d'un détachement, d'un manque de compréhension de la réalité, ou peut-être même de la manque de nécessité de s'investir dans ce qui est quand même un échec des négociations. On n'ira pas vers un État palestinien, on en parlera si vous voulez. Là, on va vers une crise grave, avec des annexions de territoire par Israël, avec tout ce que cela veut dire. Mais vous savez, en juillet 2018, le Premier ministre israélien a fait voter la loi définissant Israël comme l'État-nation du peuple juif. C'est totalement contraire à la vision qu'avait David Ben-Gourion en proclamant l'indépendance de l'État d'Israël, parce que cette loi discrimine partiellement les minorités non-juives en Israël, et on se retrouve avec, par exemple, des institutions, des associations françaises qui soutiennent l'État d'Israël aujourd'hui, qui discrimine une partie de ces minorités. Donc je vois là un véritable problème dans l'attitude d'une partie de la communauté juive envers Israël.
On aura l'occasion de revenir justement sur le positionnement de ces organisations, et notamment celles qui en chapeautent un certain nombre, à savoir le CRIF. Mais pour rester peut-être alors sur l'autre volet qui constitue en général, on va dire presque le passage obligé, semble-t-il, d'une visite d'un président français en Israël, il y a la question diplomatique, la solution à deux États. Et puis, il y a ce renouvellement de l'engagement de la France à lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que ça veut dire, c'est un petit peu ce que je laissais entendre dans mon introduction, que la visite d'un président français en Israël a aussi un impact du point de vue de la politique intérieure française?
Écoutez, c'est symbolique. Cela dit, quand même, jamais dans l'histoire, les Juifs de France n'ont bénéficié d'autant de protection de l'État, que ce soit par la loi, par les lois, par les mesures de sécurité, par l'empathie du pouvoir. C'est un moment, je crois, sans précédent dans l'histoire des Juifs de France.
Mais pourquoi exprimer notamment cette empathie, non pas sur le territoire français, même si ça a été fait, mais aussi en dehors, sur le territoire israélien, Charles Ornerlin?
Ça tient peut-être justement de cette vision, peut-être fausse, qu'Israël est une sorte de Vatican du peuple juif, et c'est en fait laisser de côté l'autre vision de l'existence d'une diaspora. Pour moi, cela, c'est un des éléments de la grande crise que traverse le judaïsme, que traverse la diaspora. Vers où va la religion juive? Où vont les grands principes? Est-ce qu'on va vers une forme de messianisme, parce que l'installation du sionisme religieux en Cisjordanie, qui est appelée la Judée-Samarie, c'est quand même un événement fondamental. On parle également, dans la droite nationaliste israélienne, de reconstruire un temple à l'endroit où se trouve le troisième lieu saint de l'islam. Et puis, vous avez un nationalisme sioniste qui parle à peu près de la même chose. Alors que pour une grande partie du judaïsme, qu'il soit religieux ou culturel, le judaïsme, c'est l'étude du livre, c'est, on ne parle pas de revenir à l'époque de la pierre, le rocher de la fondation sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, le mont du Temple. C'est une crise vers laquelle se dirige le judaïsme, avec par exemple un judaïsme libéral et réformé très important aux États-Unis et qui prend de l'ampleur également en France, et qui a des positions qui sont beaucoup moins favorables à la politique de colonisation du gouvernement israélien.
Alors j'évoquais la continuité qu'on peut observer dans les interventions qui sont celles des présidents de la République française en Israël. sachant que le premier à s'y rendre, ça n'est pas si vieux que ça. Je crois que vous étiez déjà à l'époque correspondant de la télévision publique à Jérusalem. C'est le 3 mars 1982, François Mitterrand qui va notamment s'exprimer devant la Knesset, le Parlement israélien.
Oui, le peuple français est l'ami du peuple d'Israël. Encore marqué du souvenir des années noires et des cruelles épreuves des communautés juives, le peuple français, d'un seul cœur, a vibré lors de la création de l'État d'Israël. L'Holocauste est dans son esprit indissociable de votre renaissance. Il n'a pas cessé depuis lors d'admirer les travaux qui ont été autant de signes de votre vitalité, de votre foi dans l'avenir. Désormais, Israël vit. Et nous, la France, nous ne ménagerons pas plus qu'hier nos efforts pour que son droit à l'existence soit universellement admis sans équivoque et donc pour que soit reconnu du même coup son droit à détenir les moyens de cette existence.
Charles Landerlin, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 1982 pour cette première visite d'un président français ?
Georges Pompidou était très anti-israélien. Son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, était persuadé que le Mossad manipulait l'opinion publique contre lui. Ce furent deux présidents français qui n'avaient absolument aucune affinité en partie avec la communauté juive française et également avec l'État d'Israël, alors que François Mitterrand, dès 76, a effectué une visite en Israël. Il a visité le mur des Lamentations, les mosquées, comme premier secrétaire du Parti Socialiste, avec une grande délégation comprenant les responsables. Et bien entendu, la communauté juive et Israël étaient fermement pro-Mitterrand en 82.
En dépit des ambiguïtés qui ont été celles de Mitterrand pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment
Personne n'a fait attention à cela. L'essentiel, c'était Mitterrand renouvelait la grande amitié entre Israël et la France.
De Pompidou, vous dites qu'il dénonce la double allégeance des Juifs français.
C'est le problème des vedettes de Cherbourg, l'impression qu'il y a parmi les Juifs, et peut-être encore une fois manipulés par des Israéliens, des gens qui sont en train de contourner sa politique.
Parce que les vedettes de Cherbourg, faut rappeler ce que c'est.
Cherbourg, embargo sur les armes à destination d'Israël. Israël avait commandé des vedettes lance-missiles au chantier naval de Cherbourg. Il était impossible de les livrer à Israël, mais finalement, grâce à une opération secrète montée par la marine israélienne et très certainement par des personnalités françaises qui se sont débrouillées pour les aider le jour de Noël, les vedettes commandées par Israël, mais sous embargo, ont pris la fuite et sont arrivés en Israël, ce qui a bien fait rigoler les Israéliens, ridiculiser le gouvernement français. Pompidou était furieux.
Cette suspicion de double allégeance, est-ce que c'est une suspicion qui vous paraît justifiée, en tout cas à l'époque, Charles Anderlin, et en tout cas contradictoire peut-être aux engagements qui étaient ceux, là aussi vous le mentionnez dans votre livre, qui étaient ceux du CRIF à sa création en 1944. Extrait de la charte constitutive du CRIF, il est entendu que le statut national des Juifs de Palestine n'affectera, puisqu'il n'y a pas encore Israël, n'affectera d'aucune manière celui des Juifs des autres pays et les liens qui les rattachent à leur patrie.
C'est le CRIF que, effectivement, Andan Raïski, le Parti communiste, avait signé. Cela a duré jusqu'à la nouvelle charte du CRIF dans les années 70. Mais entre-temps, il y a eu un événement fondamental qui est la guerre de Six Jours, qui pour moi est un des grands basculements politiques de la communauté et de la politique française envers Israël.
Vous écrivez même, c'est le grand réveil du judaïsme français, cette guerre des Six Jours. Pourquoi ?
D'abord, ils manifestent, ils descendent dans la rue. Il n'y a eu que très peu de manifestations dans les années 50 et avant la guerre de Six Jours de Juifs qui descendent dans la rue pour leurs droits ou contre l'antisémitisme. C'était très peu. Alors que là, on a eu des milliers de Juifs qui sont descendus pour la défense d'Israël avant la guerre. La grande crainte était que, en raison des appels au massacre de la population israélienne par les radios arabes, la communauté et les amis d'Israël craignaient effectivement un nouveau génocide au Proche-Orient. En fait, pour le général de Gaulle, ce n'était pas possible.
Ce n'était pas possible. Et il va s'exprimer sur le conflit et sur la suite de cette guerre des six jours. Quelques semaines plus tard, nous sommes le 27 novembre 1967, le général de Gaulle tient une conférence de presse.
L'établissement entre les deux guerres mondiales d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'incessantes, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur.
Voilà, formule qui va rester. Quelle réception de ce discours chez les Juifs français, Charles Anderlin ?
Ça va de la peur, on nous accuse de double allégeance, et par exemple Raymond Aron qui affirme qu'il n'a rien ressenti lors de la création de l'État d'Israël, est furieux et il part en guerre contre le président, laissant entendre même que la vieillesse est peut-être à l'origine de cette déclaration, et ça a rendu les gaullistes furieux, De Gaulle sénile. Cela dit, vous savez, avant la guerre, De Gaulle était persuadé qu'Israël allait dans tous les cas remporter le conflit. Grand stratège, il savait que l'armée israélienne était mieux formée, mieux commandée, mieux équipée que les armées arabes. Pompidou a dit à Rothschild à l'époque, mais ne vous inquiétez pas, nous avons des officiers à l'état-major israélien. En fait, il y avait des officiers français sur les aéroports israéliens lorsque les avions israéliens ont pris par surprise les armées de l'air arabes. Donc, De Gaulle lançait des appels aux Israéliens, a dit au ministre israélien Abba Eban, ne tirez pas les premiers. Il était persuadé que ce qui devait arriver allait se passer. Et dans sa conférence de presse, il faut lire la totalité, il dit que les Israéliens ont conquis les territoires qu'ils convoitaient. Il y a de la résistance qu'ils appellent terrorisme. Tout y est.
Voilà, évoquer en plus le mot résistance dans ce contexte-là, c'est assez particulier. Vous avez mentionné Raymond Aron, vous citez un extrait de ses mémoires publiées en 83, dans lequel il dit à propos de cette conférence de presse, et il revient dessus, « Je reste convaincu que le général avait voulu donner une leçon aux Juifs de France en même temps qu'aux Israéliens, aussi bien en usant de l'expression « peuple » qui englobait les Israéliens et les Juifs de la diaspora. Il ne frappait pas les seuls Juifs d'Israël. »
Oui, et puis il faut remarquer que les antisémites, Xavier Vallat, l'ultra-droite, a applaudi. « Pour une fois, je suis d'accord avec De Gaulle », disait-il. Oui, maintenant, la communauté a fait la paix avec De Gaulle, le grand rabbin Kaplan est allé demander des explications, cela s'est passé, les réactions d'Israël ont été extrêmement vives, De Gaulle a été traité d'antisémite. Mais vous avez évoqué Raymond Aron est allé en Israël après la guerre, et ce qu'il a constaté l'a rendu très pessimiste. Il pensait que ce conflit allait durer. Il a relevé la naissance, effectivement, d'un sentiment religieux messianique. Et les analyses de Raymond Aron, aujourd'hui, il faut les relire, et c'est exactement vers où se dirige la région.
Charles Anderlin, dans votre livre, alors il y a cette date importante qu'on a évoquée, la guerre des six jours en 1967. Il y en a une autre, ou en tout cas un événement également important qui va aussi peut-être changer la façon dont les Juifs français se positionnent par rapport à la République. C'est un petit peu plus tôt, c'est la guerre d'Algérie, 1962, l'arrivée de nombreux Juifs d'Algérie qui n'ont peut-être pas, disons, la même culture de l'identité, de l'appartenance à la République que ceux qui sont déjà en métropole.
Les Juifs d'Algériens, plus de 100 000, sont arrivés en France la rage au cœur. Ils disaient « Nous avons été faits cocus à deux reprises, d'une part par Vichy, qui nous a retiré la nationalité française, elle a été rétablie fort tard, fin 43, et puis aujourd'hui, De Gaulle nous a enlevé de notre pays, l'Algérie. Ils sont arrivés en France très anti-gaullistes, sans parler du fait qu'il y avait également des Juifs qui ont milité dans l'OAS pour l'Algérie française, et ils ont découvert les Israélites français, les déjà en place, qui eux étaient tout à fait gaullistes, pro-gaullistes. Donc c'est un affrontement, c'est aussi...
Et puis qui vivaient peut-être aussi leur judéité de manière différente.
Ah, tout à fait, il y a une citation que j'ai trouvée quelque part qui est absolument extraordinaire. Ce sont des Juifs venus d'Afrique du Nord qui s'installent dans un quartier près de Paris et qui trouvent de l'autre côté de la rue des Juifs qui parlent un drôle d'allemand, qui ne font pas le couscous et sont-ils vraiment Juifs? Imaginez-vous, ils ne parlent même pas l'arabe.
Est-ce que le fait qu'il y ait donc ces changements importants, qu'il y ait aussi un certain nombre de Juifs français qui, notamment après la guerre des Six Jours en 1967, vont choisir d'aller s'installer en Israël, 68-69, hein, ils sont nombreux, 5292, ça aussi c'est un des chiffres que j'ai relevé dans votre ouvrage, est-ce que c'est ce qui peut aussi expliquer que, d'une manière sans doute inconsciente, il y ait une forme de, on va peut-être pas parler de mépris, mais en tout cas de désintérêt qui s'exprime au plus haut niveau de l'État à l'égard de ce que peuvent vivre les Juifs sur le territoire français. Je pense notamment au 3 octobre 1980, attentat à Paris, rue Copernic. 4 morts, il y a des dizaines de blessés. Et vous écrivez ceci, le président Giscard d'Estaing n'interrompt pas son week-end, il chasse ce jour-là le perdreau en Lorraine.
Et vous avez la déclaration de Raymond Barre sur les Français innocents qui, bien entendu...
Voilà, il dit « Un attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. »
Et Raymond Barre a ensuite essayé de rétro-pédaler, mais le mal était certainement fait. Écoutez, cela fait partie, à mon avis, d'une couche d'antisémitisme omniprésente dans certaines catégories de la politique française. Oui, il y a des Juifs, il faut savoir. Il y a une grande personnalité française avec qui j'ai eu affaire, et puis quelqu'un m'a dit, tu sais, je lui ai dit, vous faites attention, on dit de vous que vous êtes Juif. Ah oui, je fais très attention, vous êtes antisémite. Et il répond, oui, antisémite, je fais très attention. Donc ça existe, c'est présent, il y a des gens qui ne veulent pas que leur fille épouse un Juif, c'est omniprésent, mais ça peut être la même chose pour un musulman. Il y a des couches racistes, sur le fond, oui.
Il y a eu des chefs de gouvernement français qui étaient juifs, je pense notamment à Léon Blum. Est-ce qu'un président français juif qui se revendiquerait comme tel, ça serait pour vous, Charles Anderlin, un événement ou au contraire un non-événement absolu ?
Franchement, je ne sais pas. Peut-être les deux, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est possible. Pour moi, je pense que ça peut arriver. Je sens, de visite en France, un tel besoin d'une direction différente, avec un charisme, de candidat à la République qui donnerait plus de choix aux Français. Peut-être que ce serait possible. Cela dit, vous savez, il y a eu donc les grands premiers ministres juifs, Léon Blum, Mendès France, mais il y a aussi eu René Maillère, qui est très à droite. C'est lui qui a fait tomber le gouvernement Mendès France.
Il y a eu Laurent Fabius aussi. Alors, il y a une institution importante, Charles Anderlin, sur la façon dont les Juifs français se positionnent à l'égard d'Israël. C'est le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Antoine Ulster.
Bonjour.
Il se trouve que son président accompagnait Emmanuel Macron à Jérusalem.
Oui, ce qui lui a donné l'occasion de rencontrer un certain nombre de Français installés en Israël, ou pour le dire autrement, qui ont fait leur alia, c'est-à-dire leur migration et leur élévation au sens spirituel vers Israël. L'alia est une thématique assez sensible entre nos deux pays, et qui a une dimension politique. En 2015, après l'attentat de l'hypercacher, Benjamin Netanyahou avait appelé les Français juifs à émigrer vers Israël, ce qui avait ému, y compris au sein de la communauté juive de France. J'ai demandé donc au président du CRIF, Francis Khalifa, quelle était la position de son institution sur cette thématique très délicate.
Il est évident que l'alia doit être le résultat, la conséquence d'un choix personnel librement fait. Ce que nous souhaitons pas, nous, c'est qu'il y ait des départs de Français juifs parce qu'ils sont obligés de quitter la France, parce que la situation en France devient insupportable pour les Français juifs. Alors, si on revient à ce lointain épisode de Benjamin Netanyahou, je dois vous dire que la vocation de l'État d'Israël a toujours été, avec le sionisme, et c'est la vocation du sionisme, ça a été le rassemblement des juifs du monde entier en Israël. Alors, que les Israéliens, que les dirigeants israéliens, à partir d'Israël, fassent un appel aux juifs du monde à venir en Israël, ils sont tout à fait dans leur vocation, puisque c'est la vocation du sionisme. Maintenant, j'ai trouvé, comme à l'époque, d'ailleurs, le président du CRIF de l'époque, parce que je n'étais pas celui-là à l'époque, a trouvé qu'il n'était pas opportun de venir en France, appeler les juifs de France à se rendre en Israël, quand bien même la situation était très particulière. Donc voilà, c'est un petit peu la position, en sachant, et je le redis, que le CRIF n'a pas vocation à s'occuper de l'Alia des Français juifs.
Et donc au-delà de cette problématique très spécifique, le CRIF assume un rôle très large de représentation de la communauté juive auprès des pouvoirs publics, un rôle très visible chaque année dans le traditionnel dîner du CRIF, où est convié l'ensemble de la classe politique. Quelle est la raison d'être de ce type d'événement et est-ce le rôle d'une organisation communautaire de s'adresser ainsi aux responsables politiques? On écoute sa réponse.
Il s'agit avant tout d'un grand rendez-vous républicain. La classe politique, mais pas que la classe politique, je crois, une grande partie des syndicats, une grande partie de la société civile, une grande partie des religions qui sont dans notre pays, des ambassadeurs de pays étrangers, sont au dîner du CRIF, parce que le dîner du CRIF, c'est l'occasion d'un échange entre la communauté juive et le président de la République. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, il ne faut pas le voir du tout dans sa dimension communautaire. Alors bien sûr, c'est le CRIF. Alors si on le prend dans la dimension communautaire comme étant celui d'une communauté qui appartient à la communauté nationale, bien sûr, parce que les Juifs forment aussi une communauté qui appartient à la communauté nationale, et c'est cette communauté nationale qui nous intéresse, et non pas de s'installer dans un communautarisme que d'ailleurs nous dénonçons et que nous combattons.
Voilà, c'était Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
Une réaction, Charles Anderlin ?
Écoutez, l'immigration en Israël, oui, des gens arrivent un peu dans la panique, on a ayant l'impression qu'il va y avoir la nuit de cristal en France, c'est ce qu'on nous dit, il faut entendre les reportages de personnalités et même de visiteurs juifs arrivant en Israël qui nous expliquent qu'il est même dangereux de se promener avec une kippa partout dans Paris. Attention, l'immigration française en Israël est une immigration qui se heurte à de nombreuses difficultés. Il faut parler l'hébreu, il faut s'intégrer. C'est difficile et d'ailleurs on assiste à une réelle baisse des arrivées.
Merci beaucoup Charles Anderlin. Je rappelle, Les Juifs de France entre République et Sionisme, c'est votre dernier livre que vous avez publié aux éditions du Seuil. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard, avec à la prise de son aujourd'hui Thibaut Nassim Ben. À 12h45, vous retrouverez la suite dans les idées de Sylvain Bourmeau. Je vous donne rendez-vous lundi à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture et dans un instant, le journal de 12h30.